Audit.net, Richard Fender.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis ravi, vraiment ravi de vous retrouver, de vous accueillir dans ce premier numéro d'Hérodote.net en podcast. Avant tout, je vais d'abord même vous remercier toutes et tous parce que vous êtes chaque année de plus en plus nombreuses et nombreux à nous lire, à lire les nombreux dossiers, les nombreuses thématiques que nous mettons en ligne sur Hérodote.net. Donc ça se fait de vous remercier pour commencer. Dans ce premier numéro, nous avons un parrain, finalement, un premier invité. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Franck Ferrand. Alors Franck Ferrand, vous le connaissez certainement, il est historien, il est chroniqueur sur Europe 1. Vous savez que chaque dimanche, il a une émission et il nous raconte l'histoire, la petite histoire, celle qui fait la grande. Mais Franck Ferrand est également l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment le dernier, le plus récent, La Régente Noire. Alors La Régente Noire, c'est un merveilleux roman qui nous plonge au cœur de la cour de François Ier, qui nous plonge au cœur de Madrid également, sous Charles Quint, au moment où François Ier est prisonnier d'ailleurs de cette cour. La Régente Noire est le premier opus de sa saga historique qu'il a appelée La Cour des Dames. Vous allez voir, j'ai vraiment eu cette chance de le rencontrer parce qu'il est en pleine écriture du second opus. Vous allez voir comment il nous raconte l'histoire de France à travers un roman dont on a vraiment l'impression, à la fin de la lecture, qu'on a eu la chance de vivre un nouveau film de KPDP, vous savez, à l'époque où Jean Marais nous faisait rêver et nous apprenait l'histoire. Franck Ferrand, donc, c'était une interview que j'ai eu la chance de réaliser il n'y a pas longtemps. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu original, parce que finalement, on va voir différemment un François Ier, on va voir différemment une cour de France au début de la Renaissance. Vous allez nous raconter ça parce que vous avez écrit un livre absolument magnifique, j'ai pas peur de le dire, La Régente Noire, La Cour des Dames, c'est la collection, c'est le nom de la collection que vous avez donné. Est-ce que vous pourriez d'abord nous raconter, avant d'entrer dans le vif du sujet, quel est l'état de la France, quel est l'état du monde au moment de l'arrivée de François Ier ?
On est en plein bouleversement dans ce début du XVIe siècle. Alors aujourd'hui, on appelle ça la Renaissance et même plus exactement la première Renaissance française, je précise. Parce que en Italie, la Renaissance, c'est déjà une chose tout à fait habituelle à l'époque dont nous parlons. En fait, à l'époque, évidemment, on n'est pas du tout conscient de ce changement, de ce bouleversement. Les gens ne se disent pas, tiens, nous sommes en train de sortir du Moyen-Âge et nous entrons dans la Renaissance. Simplement, un certain nombre de grands bouleversements sont en train d'affecter les différentes sphères de la société. Bien entendu, c'est l'époque des grandes découvertes. On est en train donc de repousser complètement les limites du monde connu. C'est l'époque, et avec le nouveau monde, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va apporter beaucoup de sang frais à ce vieux monde. C'est l'époque également où l'on reprend la religion de fond en comble. C'est la naissance de la réforme avec Calvin et Luther, et les luthériens vont peu à peu, en France même, gagner du terrain et modifier la perception qu'on pouvait avoir des questions spirituelles. Là aussi, ça modifie complètement l'état d'esprit, ce qu'on pourrait appeler le mental des gens. Et puis, sur un plan plus politique, plus stratégique, sur un plan juridique également, on voit l'État s'affirmer contre les anciennes féodalités qui déjà avaient du plomb dans l'aile, mais qui, on peut dire depuis une cinquantaine d'années, sont en train de perdre la partie. Alors au moment où commence mon histoire, cette saga, comme vous avez dit, puisque c'est une saga que je m'amuse à raconter à travers les luttes à mort, les luttes de palais entre ces dames, puisque c'est quand même le sujet de la saga. Au moment où ça commence, moi on est en 1521, François Ier est installé sur le trône depuis déjà un peu plus de 7 ans, et en vérité c'est sa mère qui gouverne, puisque Louise de Savoie dirige, d'une main d'ailleurs très ferme, les affaires de l'État.
Pardon, est-ce que ça c'est une première, parce que il y a quand même un roi qui est là, qui est sur le trône, est-ce que c'est une première que sa mère dirige, entre guillemets, à sa place, mais on peut peut-être enlever les guillemets.
Vous savez, le rôle de ces dames était extrêmement fort depuis déjà longtemps. On a eu tendance, nous, à partir du 19e siècle, à minimiser considérablement le rôle de ces femmes de pouvoir depuis en fait le 12-13e siècle. Mais lorsque vous prenez Aliénor d'Aquitaine, quand vous suivez l'épopée de Blanche de Castille, quand vous voyez à quel point ont été importantes des femmes comme Anne de Bretagne, qui a été l'épouse de Charles VIII et de Louis XII, ou bien sûr Anne de Beaujeu, qui a dirigé la France, elle aussi d'une main de fer pendant la minorité de son jeune frère Charles VIII, eh bien vous vous rendez compte qu'il était tout à fait normal, habituel, quasiment classique à l'époque, que ces dames soient au pouvoir et dirigent officiellement les affaires. Dans le cas de Louise de Savoie, c'est une vraie grande ambitieuse, formée du reste à l'école d'Anne de Beaujeu, qui prend en main les rênes du pouvoir. Elle avait, Louise de Savoie, une ambition dévorante pour son fils et même, j'ai envie de dire, pour ses enfants, puisqu'elle a eu deux enfants en tout et pour tout. Marguerite, l'aînée, Marguerite d'Alençon, qui plus tard deviendra la reine de Navarre. C'est notre chère poétesse et c'est elle qui va défendre dans l'entourage immédiat de son frère l'idée de réforme et en tout cas d'évangélisme, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis François, bien sûr, qu'elle va littéralement hissé jusqu'au trône, François Ier, qui monte sur le trône au début de l'année 1515, c'est facile à se rappeler, et qui donc, lorsque commence notre affaire en 1521, encore une fois, est un roi confirmé. Alors déjà, il faut s'imaginer une France beaucoup plus petite que ce qu'elle est devenue par la suite, une France qui, sur toute sa frontière orientale, s'arrête beaucoup plus près de l'ancien domaine royal, évidemment. Une France qui, par ailleurs, n'a pas encore englobé tout à fait la Bretagne, puisque même si Anne de Bretagne, encore une fois, s'est mariée avec deux de nos rois successivement, l'héritage même va passer par l'intermédiaire de Claude de France, la première épouse de François Ier, ne passera qu'à son fils. Donc ça, ce sera pour le deuxième tome d'ailleurs de notre ouvrage. Donc une Bretagne qui pour l'instant n'est pas encore tout à fait intégrée au royaume de France, et puis des provinces pour celles qui font déjà partie du royaume, qui bénéficient d'une autonomie fiscale et juridique assez extraordinaire. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de cette histoire administrative d'un royaume de France qui, je le sais, ne passionne pas forcément tout le monde, mais il faut bien être conscient que la physionomie de la France à l'époque est très différente de ce qu'on peut imaginer. Et puis, surtout, et ça va jouer un rôle tout à fait déterminant dans la façon dont seront conduites ces guerres d'Italie qui vont marquer tout le règne de François Ier, notamment la première partie de ce règne, les finances publiques en tant que telles n'existent pas vraiment. Et les généraux des finances, comme on les appelle, qui en fait sont des hommes de main de Louise de Savoie, ont une singulière tendance à confondre leurs cassettes personnelles et les deniers de l'État.
En même temps, les apanages et les provinces, c'est très important. Et d'ailleurs, dans le livre, vous montrez bien, les ducs, etc., toutes ces luttes d'influence et de pouvoir ont une importance considérable, finalement, pour la construction du royaume.
La notion même d'apanage est une chose qui aujourd'hui nous échappe et qui, effectivement, vous avez raison, joue un rôle essentiel dans notre histoire, puisque je dirais que c'est même la base dramatique de ce premier tome. Ce qu'on appelait un apanage, ce sont des territoires, parfois très vastes, qui étaient confiés à des princes du sang, alors généralement d'ailleurs à des enfants de France, hein, c'est-à-dire à des fils du roi, pour qu'ils puissent tenir leur rang, parce que qui disait territoire à l'époque disait revenus et bénéfices de tous ces territoires, et donc ça permettait de gagner beaucoup d'argent, pour parler très clairement. Donc on confiait à un prince un duché. Ça peut être le Maine, ça peut être la Bourgogne, ça peut être l'Anjou, etc. L'Orléanais. Et évidemment, lorsque ce prince n'avait pas de descendants mâles, ces territoires qui font partie directement de la couronne de France rentraient dans le giron, c'est-à-dire faisaient retour au roi. C'est ce qui va se passer avec le connétable de Bourbon. Alors là, il faut, je vais pas vous faire un cours d'histoire, je vous rassure, mais après tout, sur Hérodote, on peut quand même se permettre d'entrer un peu dans le détail.
Allons-y.
Il y a une chose importante qu'il faut bien comprendre, c'est que, pour la seule et unique fois dans l'histoire de France, un apanage a été confié à une fille. En effet, le roi Louis XI, qui, vous le savez, ne faisait rien comme tout le monde, le roi Louis XI avait une vraie admiration pour sa fille aînée, Anne de Beaujeu, dont il disait qu'elle était la femme la moins sotte qui fût en France, ce qui, lorsqu'on connaît un peu la misogynie de ce personnage, est un compliment à double entente. Cette Anne de Beaujeu, donc, était la sœur aînée du tout petit Charles VIII. Louis XI savait que c'est elle qui gouvernerait réellement le pays, et il lui avait donc confié en apanage un immense territoire qu'on appelle le Bourbonnais. C'était tout le nombril du royaume. Ce sont ces territoires qui s'étendent de Moulins à Châtellerault, d'ailleurs sur une latitude assez importante. Bref, ça fait comme une sorte de petit état dans l'état, en plein cœur du royaume sur un plan géographique, avec une richesse en plus, parce que ce sont des terres d'agriculture très riches, très grasses, très belles. Donc, ce Bourbonnais au sens très élargi du terme, ça n'a rien à voir avec le Bourbonnais que nous connaissons nous. En tout cas, ça n'en est que le Bourbonnais actuel n'en est que le noyau, que la base. Ce Bourbonnais appartenait à Anne de Beaujeu, qui l'avait donc transmis à son mari, Pierre de Beaujeu, et tous deux avaient donc fait hériter de ce Bourbonnais leur fille, fille unique survivante, Suzanne, qui a épousé un certain Charles de Montpensier, le fameux connétable de Bourbon, puisque juste avant de mourir, Louis XII l'avait fait connétable de France, et qu'en montant sur le trône, François Ier, conseillé par sa mère du reste, l'avait confirmé dans ce titre de connétable.
Donc, pardon, je vous interromps deux petites secondes. Un connétable, c'est quoi pour nos auditeurs ?
Tout simplement, le connétable, c'est le premier soldat de France. C'est ce qu'on appellerait, nous, mais ça n'existe plus en France, mais c'est ce qu'on appellerait un généralissime. C'est le chef suprême de toutes les armées, avant le roi lui-même. Je me permets de le préciser, puisque nous avons, nous, aujourd'hui, un président de la République qui est chef des armées. À l'époque, le connétable est chef des armées au-delà même du roi. Donc c'est un personnage d'une très grande importance.
C'était important de le souligner, parce que pour la suite du roman...
Or, ce premier soldat de France est à la tête du plus grand territoire privé, donc de ses apanages de Bourbonnais. Or, lui-même, avec sa femme Suzanne, ne va pas avoir d'enfant mâle. Il n'a pas d'héritier. Alors, il en a eu. Il a eu trois enfants, trois garçons, mais qui sont tous morts en très bas âge. L'un a un an, il avait à peine un an, et les deux autres au berceau. On pense même, sans en avoir la certitude, qu'ils sont morts-nés. Donc, pour les apanages, c'est un grave problème, sachant tout de même que les apanages en question ont été transmis premièrement à une femme, Anne de Beaujeu, qui elle-même l'a transmis à sa propre fille, Suzanne. Donc, vous voyez qu'on est en train, avec cette affaire, de s'éloigner de la jurisprudence habituelle, en quelque sorte. Sauf qu'au moment où meurt Suzanne, en avril 1521, la mère de François Ier, Louise de Savoie, décide que, très naturellement, les apanages de Bourbonnais, de Bourbon comme on les appelle, vont faire retour à la France, vont faire retour à la couronne. Vous imaginez bien que le connétable, personnage qui en plus a un goût effréné du luxe et qui vit dans une richesse sans aucun équivalent à l'époque dans une cour d'Europe, bien plus extraordinaire que ce qui se passe chez François Ier lui-même. On dit que le connétable de Bourbon vivait entouré d'or, hein, et de vermeil, c'était assez extraordinaire. Pensez bien que le connétable de Bourbon ne va pas se laisser déposséder si facilement. Alors, la mère de François Ier a une idée. Il se trouve, pense-t-on, et là, évidemment, on sort de la grande histoire pour entrer dans la petite, mais les deux sont très liés. Il se trouve que, apparemment, Louise de Savoie avait un faible, sentimentalement, si je puis dire, pour ce fameux connétable. Il se peut même qu'ils aient eu une liaison assez forte, qu'elle est en quelque sorte, qu'elle l'ait déniaisé, ce petit connétable, à l'époque où lui avait 16 ans et elle en avait déjà plus de 30. C'est difficile à affirmer, mais en tout cas, c'est une possibilité. Toujours est-il que l'idée invraisemblable de la régente, qui déjà donc est une femme d'âge tout à fait mûr, c'est d'épouser le connétable qui lui est encore, sinon un jeune homme, en tout cas un homme jeune. Évidemment, le connétable rejette cette offre, avec des termes très durs, puisqu'il dit qu'ayant eu la meilleure des femmes, il n'aurait certainement pas la pire, ce qui n'est pas une façon très agréable de répondre, et toujours est-il que c'est une déclaration de guerre, et c'est ce que je raconte dans ce livre, c'est une véritable déclaration de guerre. Louise de Savoie, qui n'est pas tendre, décide de prendre le connétable au mot et de le traduire devant le Parlement de Paris, ce qui est lancer une procédure judiciaire extrêmement dure et violente d'emblée. Elle conteste ses droits à la succession de Suzanne de Bourbon devant le Parlement de Paris, et bien entendu, elle va gagner, comme par hasard, dites donc. Tous ces magistrats qui vivent à Paris sous la coupe réglée de la Cour de France, évidemment, n'ont pas tellement le choix. De même, d'ailleurs, ils seraient plutôt favorables au connétable, mais on les somme de façon très sévère de rendre justice en faveur de la mère du roi, qui n'est pas reine-mère, hein. Elle est bien la mère du roi, puisqu'elle n'est même pas elle-même fille de France ni reine. Et bien sûr, ça va être la fin du duché de Bourbon. Or, le connétable, étant ainsi dépossédé de son bien, va avoir tendance à se venger. Et lui qui était le premier soldat de France et qui normalement aurait dû servir le tout nouveau, tout moderne État français, va de façon très féodale finalement tourner blason et se jeter dans les bras, si je puis dire, du roi d'Espagne, qui est en même temps empereur, et du roi d'Angleterre, Henri VIII. L'aboutissement du connétable Charles de Bourbon avec Charles Quint, c'est considéré encore aujourd'hui comme la plus grande trahison de l'histoire de France, et ça a des conséquences colossales, évidemment.
Imagine. Alors, bah, du coup, on va revenir un peu sur Charles Quint. On peut évidemment pas passer à côté de ce personnage extraordinaire et de ce moment assez incroyable. C'est l'élection de l'empereur romain, du Saint-Empire romain germanique.
Oui, on a dans toute cette partie centrale de l'Europe à l'époque des monarchies électives. C'est le cas en Pologne, c'est le cas évidemment pour le Saint-Empire. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Empire? Pour être honnête, c'est une espèce de patchwork, c'est une espèce de mosaïque d'États qui sont d'ailleurs relativement peu liés les uns aux autres et dont le noyau se trouve être l'Empire d'Autriche au sens propre, alors qu'il n'est pas tout à fait empire, enfin je n'entre pas dans ces détails, l'État autrichien dirais-je, qui donc est depuis une génération et demie, si je puis dire, est l'apanage, ou en tout cas est le bien propre des Habsbourg. Or, le jeune roi d'Espagne à l'époque, Charles de Habsbourg, va être élu. Parce qu'il y a donc bien des électeurs, des princes électeurs, qui élisent l'empereur à chaque fois que meurt un empereur. Sinon d'ailleurs à chaque fois, en tout cas à chaque fois que s'éteint une ligne directe dynastique, eh bien le jeune roi d'Espagne va être élu en 1519 sur le trône du Saint-Empire romain germanique. Or, l'autre candidat en face n'était autre que François d'Angoulême, roi de France sous le nom de François Ier. Donc vous avez Charles d'Espagne et François de France, qui sont candidats, un peu comme on verrait aujourd'hui pour une grande élection, qui sont candidats au trône électif du Saint-Empire. Alors on a longtemps pensé, pendant les trois quarts de l'élection, que François Ier allait gagner, ça paraissait même évident, et puis lors des fugères, vous savez, ces banquiers d'Augsbourg, ayant littéralement acheté la plupart des électeurs, finalement c'est le Habsbourg qui monte sur le trône, et au grand dépit de François Ier, c'est Charles Quint qui devient empereur. Donc il est non seulement maintenant roi d'Espagne, avec les possessions colossales que ça suppose grâce aux nouvelles découvertes en Amérique, mais il est en même temps donc le maître de l'Autriche, de tous ces États allemands, mais aussi de toute la partie flamande de l'ancien duché d'Occident, hein, de l'ancienne Bourgogne. Donc on peut dire qu'un peuple sur deux, même un peu plus d'un peuple sur deux, à partir de 1519, vit sous la houlette de Charles Quint. Vous imaginez, pour la première puissance de l'époque, qui reste quand même le royaume de France, c'est une chose intolérable en quelque sorte, et bien sûr c'est le début d'une lutte, cette espèce de duel entre François Ier et Charles Quint, c'est le début d'une lutte séculaire entre la monarchie française et la monarchie Habsbourg, une lutte qui durera au bas mot jusqu'en 1756 au moment du retournement d'alliance sous l'égide de Louis XV et de Madame de Pompadour, mais en fait ça s'étendra même jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Donc en fait, on se retrouve avec une situation politique ou géopolitique française difficile à tenir pour un roi qui est encerclé par l'Espagne et par tout le Saint-Empire, ce fameux empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, je crois, hein, et avec le roi d'Angleterre qui joue un peu l'espèce d'arbitre entre les
oui.
deux, toujours.
Bon, on connaît la politique des Anglais, c'est la même depuis 1000 ans, donc c'est très facile. Ils sont toujours les alliés du plus faible sur le continent. Donc ils cherchent quelles sont les deux principales puissances et ils s'allient à la plus faible. Et quand la plus faible, grâce à eux, devient un peu la plus forte, et bien ils s'allient avec l'autre, etc. Enfin, on les a vus faire ça pendant des siècles, on les connaît par cœur.
Alors j'aimerais que vous puissiez revenir assez rapidement sur le camp du drap d'or, la rencontre entre François Ier et Henri VIII, et surtout la rencontre entre Charles V, la rencontre qui vient après, entre Charles V et Henri VIII, qui est, elle, dans votre livre. Que vous nous en disiez un petit peu plus, parce qu'il y a vraiment un passage très savoureux, et j'invite vraiment tous les lecteurs à le lire.
En fait, le camp du drap d'or, c'est la rencontre diplomatique de François Ier et d'Henri VIII, parce que François Ier, ayant vu l'empereur élu sur le trône du Saint-Empire, enfin ayant vu Charles Quint lui ravir le trône, se dit qu'après tout, le seul moyen de contrebalancer l'immense puissance Habsbourg qui est en train de naître, c'est de s'allier à l'Angleterre. Sauf que J'allais dire ce que ne sait pas François Ier, il le sait très probablement. Quand on dit François Ier, on devrait dire Louise de Savoie. Hein. Dans tout ça, François Ier, c'est un petit peu l'homme de la représentation. C'est lui qui, évidemment, c'est le roi. Mais celle qui dirige tout ça en sous-main, c'est Louise de Savoie. En l'occurrence, avec un personnage très important, qui est le chancelier Duprat, qui va mener la diplomatie et la politique française à cette époque. Ce que François Ier ne sait pas ou feint de ne pas savoir, ce que Duprat doit bien deviner, c'est qu'en fait le roi d'Angleterre a une forte prédilection pour le roi d'Espagne et que l'alliance elle est déjà conclue entre Charles Quint et Henri VIII. Mais on fait comme si de rien n'était et l'on va quand même rencontrer le roi d'Angleterre. Sauf que vous savez, c'est cette antique querelle entre le roi de France et le roi d'Angleterre. N'oubliez pas que le roi d'Angleterre à l'époque, quand il est sacré à Westminster, est systématiquement sacré roi de France et d'Angleterre depuis Henri VI. Donc évidemment, il y a une sorte de guerre larvée entre ces deux royaumes. Eh bien, ce qui devait être une gentille rencontre diplomatique tourne à une sorte de débauche. Alors, assez drôle, moi je la raconte pas là, parce qu'effectivement, mon action commence après, mais ça aurait mérité, parce que c'est très drôle. C'est une espèce de délire complet. Les deux royaumes vont se saigner aux quatre veines pour en mettre plein la vue à l'autre, mais c'est vraiment ça. Donc vous avez d'un côté un roi d'Angleterre qui fait construire une ville en bois, je ne sais pas si vous imaginez, avec un hôtel de ville, avec une cathédrale, avec enfin tout ça, et complètement, ça ferait un film d'ailleurs fascinant. On construit une ville entière en bois, aussi belle qu'une vraie ville, sauf que c'est un décor de théâtre. Alors bien sûr, quand les Français voient ça, ils sont un petit peu estomaqués. Mais en face, le roi de France, lui, a fait broder toutes les tentes d'un camp absolument immense, au fil d'or, s'il vous plaît. Donc vous imaginez la richesse à profusion d'un camp. On marche sur des tapis de soie. Enfin, tout ça est complètement... C'est une débauche de moyens. Bien sûr, on ne dîne et banquette que dans de la vaisselle de vermeil. Enfin, c'est extravagant. Et donc, on va appeler ça le camp du drap d'or. On s'en est mis vraiment plein les yeux de part et d'autre, sauf que lorsqu'on se sépare, l'alliance n'est pas plus forte, puisque 15 jours plus tard, Henri VIII va signer secrètement un véritable accord diplomatique avec Charles Quint, qui lui est arrivé directement, tranquillement, sans aucun cinéma. Il est toujours vêtu de noir, vous savez, puisque c'est un personnage qui quand même est d'une sobriété presque protestante, ce qui est un paradoxe de la part de Sa Majesté très catholique.
Alors, à vous entendre, ce faste ressemble complètement à François Ier. Quand on vous lit, on a vraiment l'impression même que François Ier, le roi de France, manque tout à fait de sens politique. D'ailleurs, il laisse complètement les affaires de l'État à sa mère, à cette fameuse cour des dames, comme vous dites. D'ailleurs, ne dit-il pas, une cour sans dames est un jardin sans belles fleurs.
Je ne peux pas vous laisser dire, Richard, que François Ier n'avait pas le sens de l'État, car ce serait pas vrai. C'est un roi qui a été sacré, évidemment, comme tous nos rois à Reims, et qui a évidemment très haute idée de sa fonction, qui d'ailleurs s'y consacre totalement et jusqu'à sa mort, sans démériter, je dirais. Il a un sens évident de l'État et il a un sens supérieur des intérêts français. Ça, c'est incontestable. Et je dirais même que chez lui, ça tourne parfois presque à une forme de gloriole, ce qui est toujours un peu pitoyable, finalement. Bon, mais en revanche, son tempérament le porte davantage, effectivement, au faste et au plaisir. C'est un enfant archi gâté, François Ier, qui a été élevé comme un petit dieu. Sa mère l'appelait Mon César, hein, et tout est dit. Elle l'a donc, encore une fois, toujours porté à bout de bras. Il a été très tôt le chef de famille, puisque son père est mort alors qu'il était jeune, et qu'il a une sœur qui est littéralement amoureuse de lui. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Donc, comme tous ces... Imaginez un gamin qui aurait tout, un peu comme... enfin, je ne citerai pas de nom, mais vous voyez des gens très gâtés dans la vie. Évidemment, tenir des conseils, réunir des commissions, mener des inspections, etc., c'est pas tellement ce qui l'amuse le mieux. Il préfère mener des chasses extraordinaires, parce qu'à l'époque, les chasses... Vous savez qu'on a plus de 100 valets piqueurs dans une chasse de l'époque. Enfin, c'est des choses... Il y a un faste dans tout ça qu'on oublie. Il aime le bal, il aime le voyage, on voyage en permanence, on ne fait même que ça. Il aime tout, et il aime les femmes, puisqu'on peut dire que François Ier a une espèce de quasi-obsession pour le sexe dit faible, pour le beau sexe. Et donc, C'est vrai qu'il a tendance à confier les affaires de l'État à sa mère, qui elle a une passion pour ça, ça tombe bien. À partir du moment où sa mère sera morte, en septembre 1531, vous verrez François Ier prendre lui-même les rênes de l'État. Alors, est-ce que ce sera pour le bien de la monarchie française? C'est une autre histoire, on verra ça dans le deuxième tome, c'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment et je m'amuse pas mal d'ailleurs. Je pense pas que François Ier ait toujours été très doué dans sa gestion, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui n'a pas le sens de l'État, il l'a incontestablement.
Alors après la défaite de Pavie, le roi François Ier est fait prisonnier, il écrit à sa mère: Tout est perdu, fort l'honneur. On sent vraiment encore le côté roi chevalier dont on parle toujours. Alors, dans cette période, on dit toujours que c'est la Renaissance, mais finalement, avec cet événement, on est encore dans le Moyen Âge.
Oui, alors oui, on raconte toujours, mais ça c'est donc en 1515, hein, c'est à Marignan, on voit le fameux chevalier Bayard adouber le roi chevalier, puisque c'est comme ça qu'on appellera François Ier, c'est le dernier chevalier en quelque sorte, peut-être pas si dernier que ça d'ailleurs, puisqu'on verra encore son propre fils Henri II mourir dans un tournoi de chevalerie en 1559, hein, donc nettement plus tard. Bon, mais ce qu'il y a de terrible avec Pavie, c'est que c'est une inconséquence coupable. François Ier est à la tête d'un État d'une richesse absolument inouïe. Ce qui me fascine lorsque j'étudie l'histoire de France, à différentes époques d'ailleurs, depuis très longtemps, depuis Alésia et même avant, jusqu'à des époques très récentes, la Seconde Guerre mondiale par exemple, c'est de me rendre compte qu'en fait, ce pays s'en sort toujours, si l'on peut dire, parce qu'il est d'une infinie richesse. Quand je dis richesse, c'est de tous ordres, mais surtout de deux ordres. Une richesse agricole, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de produits de la terre, hein, qui sortent de cette terre bénie des dieux, comme on disait. Et puis aussi une richesse artisanale et industrieuse, puisqu'on a toujours eu cette espèce de tissu de fabricants de toutes sortes et de marchands, etc. Bon. Donc, la couronne de France s'appuie sur un pays réel, si je puis dire, extrêmement riche. Or, ce qu'a très bien vu la mère de François Ier, Louise de Savoie, c'est qu'il faudrait profiter de l'avènement des nouvelles classes bourgeoises, en quelque sorte, pour asseoir la couronne sur un État moderne et pour construire cette France solide, territoriale, continentale, en quelque sorte. Or, ce n'est pas l'idée de son fils qui, lui, a une sorte de marotte. Je crois que là, on peut parler quasiment de lubie, hein. C'est assez stupéfiant. C'est en tout cas une obsession chez lui qu'il aura jusqu'à son lit de mort, ce qui est assez stupéfiant. François Ier est fasciné par l'Italie. Pourquoi? Ben parce que l'Italie de l'époque, c'est la vitalité, c'est la culture, c'est le raffinement, c'est les belles femmes pour le coup, c'est la poésie, c'est la peinture. Et or, c'est un roi artiste, François Ier, c'est un roi lettré, faut pas l'oublier. Il a reçu une éducation très remarquable. J'ai un peu moi minimisé.
Oui, on
cet
le voit
aspect.
pas bien dans votre.
J'ai minimisé cet aspect pour des raisons romanesques, mais il faut pas oublier que c'est quand même c'est quasiment un intellectuel, François Ier. Donc, il lit le latin, le grec dans le texte. Il parle l'hébreu. Il parle il parle d'art tout à fait de plein pied avec les plus grands artistes de l'époque et tout. Bon, moi j'ai un peu minimisé ça parce que c'était pas le sujet, si je puis dire, du livre, mais bon. Donc il a une fascination pour l'Italie. Or, il va réenfourcher, si je puis dire, les chevaux de bataille de Charles VIII et de Louis XII et mener à son tour une sorte de campagne italienne. Or, ça tombe bien ou mal, la première campagne qu'il mène dès le tout début de son règne contre les Helvètes, hein, en l'occurrence contre la Confédération, enfin, ce n'est pas tout à fait encore la Confédération, contre les Suisses, donc à Marignan, se trouve être une grande victoire. Donc, pour lui, définitivement, il est marqué du sceau de cette victoire et il va vouloir asseoir la présence française en Piémont, dans un premier temps, et puis, si possible, à Naples, etc. Or, le Milanais, cette fièvre milanaise, comme on disait, va se développer au détriment, bien sûr, du pays, puisque ça coûte très cher de mener une guerre lointaine comme celle-là, et qui en plus ne rapporte, entre nous soit dit, on voit toujours pas quoi, sinon sur un plan culturel, évidemment, mais bon. Louise de Savoie est totalement opposée à cette politique italienne de son fils. Et ce qui est assez étrange, c'est que dans la mesure où c'est elle qui dirige vraiment le royaume, elle va œuvrer à titre personnel personnelle contre cette politique. Elle va tellement affaiblir nos armées en Italie, qui en plus sont dirigées par les frères de la favorite du roi qu'elle déteste, Madame de Chateaubriand, qu'elle va aller jusqu'à nous affaiblir et jusqu'à nous faire perdre finalement la bataille. Alors quelle bataille ? Eh bien il se trouve que François Ier, poursuivant le connétable félon, le traître Charles de Bourbon, parce qu'on a un peu perdu de vue de Bourbon, mais il y a toute l'histoire de sa trahison que je raconte dans le livre, et puis finalement François Ier va suivre Bourbon jusqu'en Italie, et le suivant en Italie, il va mettre le siège devant Pavie. Et effectivement, dans des conditions un peu inconséquentes, il lance. Alors bon, il n'est pas entièrement responsable de ça, mais je ne vais pas entrer dans le détail stratégique de Pavie. C'est assez passionnant d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Toujours est-il que nous perdons la bataille, et pire que ça, le roi, vous l'avez dit, est fait prisonnier. Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. En l'occurrence, depuis 1356 et Jean le Bon à Poitiers. Donc c'est un vrai désastre, cette histoire. Le fameux désastre de Pavie. Le roi est emmené en captivité en Espagne, à Madrid, alors que la capitale de l'Espagne à l'époque où se trouve l'empereur Charles Quint, c'est Tolède, juste au sud de Madrid. Et il y a là les fameuses tractations extraordinaires pour libérer le roi, parce que vous pensez bien que l'empereur Charles Quint va en profiter de cette situation. Et quel est le but de Charles Quint ? C'est son obsession à lui, de même que l'obsession de François Ier, c'est le Milanais, celle de Charles Quint, c'est la Bourgogne, la Bourgogne, la Bourgogne.
Et ce qui est remarquable dans votre livre également, c'est qu'on voit la captivité de François Ier à Madrid vue de l'intérieur, avec en plus sa sœur qui vient le voir, il y a vraiment des passages assez savoureux.
Ce qui est inouï, c'est que la régente, la mère de François Ier, va envoyer comme chef de délégation pour négocier directement avec l'empereur, qui, elle a déjà son fils captif en Espagne, mais elle envoie sa fille, et c'est Marguerite, si proche de son frère et qu'il l'aime tant, qui va venir essayer de négocier. En fait, la négociation échouera, mais c'est elle qui vient négocier. Alors, je passe quelques épisodes. Ce qui est fou, c'est qu'on finit par s'entendre. Alors, comment s'entend-on ? D'une façon assez bizarre, François Ier va signer un faux traité. François Ier va signer le traité de Madrid en réunissant, avant même l'heure de la signature, tous les gentilshommes français disponibles à Madrid et en leur déclarant, comme on ferait devant notaire, que ce qu'il va signer est nul et non advenu, qu'il le fait sous la contrainte et qu'un roi de France n'est pas libre de signer un traité sous la contrainte. Donc, c'est assez bizarre. Il signe donc ce traité de Madrid et il a déjà, au moment où il le signe, l'intention de ne pas respecter son engagement. Il sait déjà qu'il va trahir sa signature. Oui, sauf que parmi les conditions du traité, il y a un échange d'otages, c'est-à-dire que les Français vont devoir donner des otages. Et les Espagnols, et les impériaux, devrais-je dire, ont demandé que les otages en question soient les 12 plus grands capitaines du royaume. Et ça, pour Louise de Savoie, c'est inacceptable. Elle n'a pas en bonne gouvernante. Elle sait très bien qu'il n'est pas question de se démunir à ce point. On ne peut pas décapiter les armées françaises. Donc que propose-t-elle ? Je dis propose-t-elle, on n'en a pas la preuve historique, mais c'est quand même très probable que ça vienne d'elle ou en tout cas de son entourage immédiat, elle propose d'envoyer carrément les enfants du roi. Alors François Ier a trois fils, il a quelques filles aussi, mais il a trois fils. Alors le plus jeune, Charles, est vraiment trop petit, donc lui on va le laisser tranquillement à Amboise, mais les deux autres, les deux aînés, François et Henri, vont être envoyés comme otages, comme prisonniers à la place de leur père en Espagne. Or, à partir du moment où François Ier ne respecte pas sa parole, et où, sitôt libéré, il crée la fameuse Ligue de Cognac, qui est une véritable déclaration de guerre de nouveau à l'empereur, vous pensez bien que les otages vont être, sinon maltraités, en tout cas, pas bien traités, ça c'est certain, et ils sont quasiment jetés dans une sorte de cachot, et ils vont y rester 4 ans et demi, les petits princes. Ils ont respectivement, au moment où commence cette affaire, ils ont 8 et 6 ans, et ils vont y rester pendant, 4 ans et demi.
Donc l'un des deux captifs, c'est Henri II qui deviendra roi. Est-ce que ça va jouer dans sa façon de gouverner plus tard ? On le verra certainement dans vos livres.
Le caractère d'Henri II est particulièrement dur, renfermé. On peut dire que c'est un homme blessé, il le restera toujours. Et cette captivité de plusieurs années à l'âge tendre, cette captivité espagnole va complètement orienter tout son destin. D'abord, donc, dans son tempérament, dans la conception qu'il a des Espagnols, qui resteront quand même ses ennemis jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est assez étonnant, y compris la reine Éléonore, qui pourtant était bonne avec lui, mais qu'il n'aimait pas, qui était donc la deuxième épouse de son père, François Ier. Et puis, surtout, pendant cette captivité, les deux princes, qui n'ont rien d'autre à faire, si je puis dire, lisent un roman en castillan à l'époque, puisqu'il ne faut pas oublier que quand ils seront libérés, ils ne parlent quasiment même plus le français, hein, c'est terrible, hein. ils lisent un roman qui s'appelle Amadis de Gaulle. Et dans ce roman, il y a une fée, une belle fée Urgande qui domine littéralement le royaume des hommes. Et cette belle fée Urgande, dans l'esprit du petit prince Henri, c'est la belle Diane de Brézé, la grande sénéchale de Normandie, qu'on appelle nous Diane de Poitiers. Et ça jouera un rôle essentiel, puisque dès sa libération, il a même pas 13 ans, il est fou, amoureux, comme on dirait nous aujourd'hui, raide dingue, de cette sénéchale qui a quand même 20 ans de plus que lui, et qui néanmoins va devenir, sinon tout à fait sa maîtresse, c'est discutable, en tout cas, assurément sa favorite en titre.
Diane de Poitiers, j'aimerais bien qu'on revienne quelques instants, parce que vous le dites dans votre livre, ce n'est pas le Poitiers qui vous est cher à côté du Futuroscope, mais c'est un autre Poitiers.
Oui, alors ça c'est un détail historique, mais enfin Diane de Poitiers donc s'appelait de naissance Saint-Vallier, Diane de Saint-Vallier, et les Saint-Valliers avaient parmi leurs seigneuries celle de Pétieux en Provence, et cette seigneurie de Pétieux se disait en langue d'ol Poitiers, donc mais ça n'avait effectivement rien à voir avec le Poitiers capital de la Vienne et du Poitou. En l'occurrence, cette Diane de Poitiers va jouer un rôle déterminant dans toutes ces affaires. Et c'est elle qui, en plus, pour moi, fait le lien entre tous les épisodes de cette saga, puisque cette cour des dames, pour moi, c'est d'abord la cour de Diane, en quelque sorte, et on la voit de la première à la dernière page de la saga, on voit son ascension extraordinaire, et puis on ira jusqu'à sa chute finale.
Bon, alors jusque-là, on n'avait justement pas parlé de Diane de Poitiers, qui est quand même le fil rouge de votre livre. J'aimerais bien que vous reveniez un peu sur elle, sur sa vie, parce que justement, elle a une vie réellement incroyable, cette Diane de Poitiers.
Diane est la fille préférée de loin de ce personnage étonnant, une sorte d'aventurier d'opérette, si je puis dire, qui s'appelle Jean de Saint-Vallier, qui est un personnage pour lequel j'ai une certaine tendresse, mais qui alors effectivement est un peu un écervelé, il faut dire, et qui surtout a des ambitions délirantes, mais des ambitions un peu chevaleresques et féodales. C'est un très bon militaire du reste, c'est un très bon soldat. Et ce Jean de Saint-Vallier est un ami, en tout cas est un proche, un allié, devrais-je dire, du connétable de Bourbon. Or, alors que sa fille est dame d'honneur de la reine Claude de France, alors que sa fille est à la cour et qu'elle est, vu son ambition, en train d'essayer de se préparer un avenir extraordinaire, donc elle fait bien attention à ne pas ne jamais commettre un impair, à se faire bien voir du roi, de la mère du roi, etc., eh bien son père ne trouve rien de mieux que de soutenir et de suivre le connétable de Bourbon dans sa fameuse trahison. Donc vous imaginez la situation pour Diane, qui apprend, alors même qu'elle est à la cour, qui apprend que son père fait partie des traîtres. Pour elle, c'est un coup terrible, et d'autant plus que celui qui a dénoncé la félonie, la traîtrise, sans du tout savoir que son beau-père s'y trouvait mêlé, c'est le mari de Diane, le grand sénéchal de Normandie. Vraiment, l'histoire telle qu'elle existe nous réserve des scénarios qui sont bien plus extraordinaires que tous les scénarios de fiction, finalement.
Alors, au fil des pages, on tombe quand même un peu amoureux de ce personnage incroyable. D'ailleurs, tout le monde tombe amoureux de ce personnage. Est-ce que finalement, elle était aussi belle qu'on le dit, cette Diane de Poitiers ?
Je peux constater, Richard, que vous êtes à peu près aussi pervers que je l'imaginais. Parce que pour tomber amoureux de Diane, il faut le faire, si je puis dire. Je trouve, moi, que c'est un personnage assez... Alors, je vais mesurer mes propos, parce que je trouve que c'est un personnage assez difficile, disons. Elle était d'une grande beauté, ça c'est incontestable, et surtout, chose tout à fait inouïe, elle est restée très belle jusqu'à la fin. C'est une femme qui a 50 ans, à 60 ans, à une époque où c'était considéré comme un grand âge, 60 ans, était toujours identique à elle-même, elle n'avait toujours pas de rides, n'avait pas changé, avait toujours la même chevelure, le même teint, la même taille, c'est tout à fait extraordinaire. On a l'impression que le temps n'avait pas de prise sur elle, et ça a bien sûr contribué beaucoup, ça, à sa réputation et à sa légende, si je puis dire. Bon. En dehors de ça, c'est une femme d'une dureté de caractère, d'une sécheresse de cœur et d'une avidité surtout, mais absolument délirante. C'est un peu le JR de la saga, si je puis dire. Et alors, l'excuse que je peux vous trouver dans cet amour naissant, c'est que dans le premier tome, on ne s'en rend compte pas encore tout à fait, parce que moi je m'amuse pour l'instant à la rendre, sinon sympathique, mais disons acceptable, pour que les gens soient d'autant plus surpris dans le deuxième et surtout dans le troisième tome où on va voir jusqu'où elle peut aller dans la vilenie. Je peux vous assurer que ça va quand même très loin. Diane, dite de Poitiers, n'avait qu'une passion dans l'existence, c'était l'argent. Et on va s'en rendre compte par la suite.
On a hâte de lire les prochains tomes. Alors justement, dans ces prochains tomes, on va découvrir des aventures assez extraordinaires. On va découvrir certainement l'alliance de François Ier avec les Turcs, avec les protestants. On va avoir pas mal de rebondissements. Vous pouvez nous en donner 2-3 exemples ?
Alors, vous allez un peu rester sur votre faim concernant les Turcs, parce que ça a été une grande interrogation, c'était une question que je me suis posée. C'est vrai que François Ier a mené 5 ambassades a envoyé 5 ambassades jusqu'à Constantinople, qu'il s'est très bien, on le sait, entendu avec Soleiman, qu'il a été donc soliman, comme on disait à la cour de France, en francisant tout. François Ier a donc... eu l'audace, il faut bien le dire, mais poussé par sa mère au départ, de passer alliance avec l'infidèle, comme on disait, lui qui était roi très chrétien. Ça aurait été intéressant, mais c'est tellement, je dirais, exotique et à part dans le règne que j'ai finalement pris le parti de ne pas courir ce lièvre-là. Vous savez, c'est le problème d'un roman, ou en tout cas d'une présentation romanesque de l'histoire, c'est que on ne peut pas se permettre d'être exhaustif, il faut choisir des trames. Et en l'occurrence, la trame turque, qui m'a beaucoup titillé, j'ai fini par l'abandonner, je le dis clairement. Donc on en parlera, on ne va pas dire pas, mais en tout cas très peu de façon secondaire. On va le voir, évidemment, diriger la France après la mort de sa mère. On va le voir passer son temps entre des rapprochements et des éloignements fatals à l'égard de Charles Quint, bien entendu, et puis on va, dans le deuxième tome en tout cas, aller jusqu'à la mort de François Ier et à l'avènement de son fils, qui donc se trouvait être son deuxième fils, Henri, puisque le premier meurt dans des conditions qu'on verra également dans le deuxième tome. C'est tout à fait passionnant d'ailleurs, la mort du dauphin François. Finalement, c'est le dauphin Henri qui accédera au trône en 1547, et pour Diane de Poitiers, c'est le début de l'épanouissement total, puisque finalement, son vieux rêve, cette perspective que lui avait dessinée un voyant, va se trouver réalisée, en quelque sorte. Bon. Ce deuxième tome nous mènera dans le cœur même de ce qu'on appelle la cour des dames, puisque j'ai choisi comme trame essentielle la lutte, mais la lutte à mort, entre Diane, justement, et la favorite en titre de François Ier, Anne d'Ailly de Pisseleu, qui était duchesse d'Étampes. Et l'on peut dire que ces deux femmes, Diane de Poitiers d'un côté, qui dirigeait le dauphin et qui s'appuyait sur le futur connétable de Montmorency, et la duchesse d'Étampes de l'autre, qui s'appuyait sur Marguerite, la sœur de François Ier, et qui avait dans sa manche le grand amiral de France, Chabot de Brion, cette lutte aura littéralement déchiré toute la deuxième partie du règne de François Ier. C'est cette lutte-là à laquelle nous assisterons, avec, en point d'orgue, le fameux combat, le duel, par champion interposé de ces deux femmes, parce que chacune avait son champion, et les deux se sont, aux yeux, devant toute la cour, se sont affrontés dans une clairière de la forêt de Saint-Germain. On est là à l'été 1547, c'est un moment incroyable, et les deux champions s'appellent La Châtaigneraie du côté de Diane de Poitiers, et Jarnac du côté de la Duchesse d'Étampes, et Jarnac possède une botte secrète qu'on appelle le coup de Jarnac, qui va, lui qui est tout petit, tout frêle, lui permettre d'abattre le géant La Châtaigneraie. Donc le prochain tome, si je puis dire, s'ouvre sur le règne personnel de François Ier et se clôt sur le duel du coup de Jarnac.
Si j'osais, je vous demanderais quel est votre personnage préféré dans votre livre, dans votre saga.
Il y en a 3 et qui vont successivement incarner porter les 3 tomes. Le premier, c'est évidemment Louise de Savoie, qui est un personnage pour qui j'ai une sorte d'admiration, indignation mêlée. Vous savez, comme tous ces grands personnages de l'État, c'est comme Richelieu, par exemple. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'admirer en même temps de vous dire « mais quel salaud !» Même chose avec Talleyrand, par exemple. Elle est de cette trempe-là, Louise de Savoie. Le deuxième, c'est la duchesse d'Étampes, qui est une femme d'abord d'une intelligence souveraine, absolument extraordinaire, et en même temps d'une méchanceté, d'une petitesse, insigne, et qui, en même temps, soutenait les artistes, était à l'avant-garde, était une moderne, était une femme progressiste. Et elle était d'ailleurs, elle finira très, très protestante, hein, très réformée, etc. Donc, je l'aime beaucoup dans ses contradictions impossibles, cette favorite qui était en plus très jeune et très belle. Et puis la troisième, qui apparaît évidemment dans le deuxième tome, puisque le prologue c'est son mariage avec Henri justement, mais qui n'explosera qu'après la mort, enfin qu'au moment de la mort d'Henri II, c'est Catherine de Médicis, Madame Catherine comme on l'appelait, qui sera donc l'héroïne, si je puis dire, du troisième tome.
Et un des grands personnages de l'histoire française quand même.
Et un des grands personnages de l'histoire française. Et vous vous rendez compte qu'à partir de là, mon héroïne fil rouge, ma Diane de Poitiers, elle ne sert que de repoussoir et faire valoir à ces trois-là.
Merci beaucoup Franck Ferrand et longue vie à votre saga. Nous on va se retrouver dans 15 jours avec un autre thème totalement différent qui sera pour en finir avec la repentance. Vous verrez, ça n'a rien à voir, mais quelque part c'est revisiter l'histoire ou en tout cas la visiter différemment. Voilà, alors j'espère vous avoir donné envie d'en connaître un peu plus sur le sujet. Alors d'abord, nous vous engageons et je vous engage et je vous conseille vraiment de lire le très bon livre de Franck Ferrand, hein, La Régente Noire. D'abord pour le remercier d'avoir essuyé les plâtres de ce premier podcast un peu artisanal, vous l'avez peut-être entendu, mais vraiment parce que grâce à son roman, parce que c'est vraiment d'un roman dont il s'agit, vous allez mieux comprendre, on peut mieux appréhender les personnages, on peut mieux entrer dans l'histoire, et c'est vraiment en ça qu'il est très intéressant. Ensuite, toujours pour en connaître un peu plus et davantage sur ce moment charnière, quand même un peu, et tous les moments sont des moments charnières, me direz-vous, mais c'est un moment très important dans l'histoire de France. Pour en savoir plus, donc, deux dossiers sur Hérodote.net, comment aurais-je pu l'oublier? Bien évidemment, notre André Larané National vous a concocté deux dossiers que vous connaissez peut-être, en tout cas, redécouvrez-les ou découvrez-les, c'est Renaissance et Réforme, là vous rentrerez vraiment dans les détails importants, et également le thème François Ier promet et ne tient pas, un merveilleux article où là aussi vous apprendrez pas mal de choses sur un roi qu'on apprend finalement assez mal à l'école. Voilà, à dans 15 jours donc pour en finir avec la repentance avec l'historien Daniel Lefeuvre. Merci à toutes et à tous, à très bientôt.